12h-13h30, les midis de culture. Marie Sorbier.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans les midis de culture. À 13h, je recevrai le grand poète et écrivain roumain Mircea Cărtărescu à l'occasion de la parution d'une nouvelle traduction du premier tome de sa trilogie Orbitor, L'aile gauche, et c'est chez De Noël. Mais d'abord, place à l'art délicat de la critique, de la musique. Aujourd'hui, en ce lendemain de Noël, nous voulions vous proposer encore des cadeaux, 4 albums et pas n'importe lesquels, les meilleurs des 25 dernières années. Alors évidemment, c'est un choix absolument subjectif à ajouter éventuellement sur sa playlist, de quoi réjouir les fans et susciter la curiosité des autres. Et voici donc nos deux critiques qui se sont prêtées à l'exercice du best-of. Carole Boinet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de la rédaction des Inrecuptibles, et Joseph Ghosn, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur adjoint de la rédaction de Madame Figaro. Bienvenue à tous les deux. Alors avant d'entrer dans la chair de vos choix, peut-être un petit point méthodologique. Vous allez chacun présenter deux albums avec deux titres que l'on va écouter. Alors la règle était très claire. Hein. Ils devaient être sortis entre 2000 et 2025. Un choix plus repéré et un second peut-être plus confidentiel. Est-ce que ces choix-là ont été évident, Carole, pour vous ?
Évident, non, je dirais pas ça, non. Je pense que j'aurais pu choisir beaucoup, beaucoup d'albums. Et puis, à un moment, je me suis dit qu'il y avait une forme de cohérence à prendre. Bon, je dévoile du coup Daft Punk, Random Access Memories et Earthseater, qui est une artiste moins connue. Et je trouvais que ça racontait quand même quelque chose, l'un et l'autre, des 25 dernières années.
Joseph, pour vous, comment s'est passé ce choix ?
Il était assez évident dans le sens où je me suis dit qu'il fallait un album par décennie, en fait. Du coup, j'ai un peu évacué les cinq dernières années. Mais en fait, le premier s'impose vraiment pour moi, parce que c'est vraiment pour moi l'album de la première décennie. Et l'autre, je pense, est aussi mon préféré de la deuxième décennie, en gros, de 2010 à 2020. Rétrospectivement, enfin, en y réfléchissant maintenant, je me dis que j'ai oublié un ou deux albums que j'aime vraiment beaucoup, mais qui sont peut-être un peu trop obscurs ou un peu trop confidentiels, mais qui peuvent découler de cela. Donc voilà, je pense que ce sont des albums qui lancent des pistes.
Choisir, c'est renoncer.
Exactement.
Alors on commence avec votre premier choix.
Bob, I'm looking at what Jack was talking about, and it's definitely not a particle that's nearby. It is a bright object, and it's obviously rotating because it's flashing. It's way out in the distance, apparently rotating in a very rhythmic fashion because the flashes come around almost on time. As we look back at the Earth, it's up at about 11 o'clock, about maybe 10 or 12 Earth diameters. I don't know whether that does you any good, but there's something out there.
Carole Boinet, on entend là donc votre premier choix, Contact des Daft Punk. Nous voici de retour en 2013, il s'agit de l'album Random Access Memories, le quatrième des Daft Punk, album qui comprend notamment le titre Get Lucky, Triomphe Planétaire. Là, nous attendons donc Contact. Pourquoi ce choix d'album ?
Alors, un choix d'album parce que, en fait, j'aurais pu prendre Discovery, j'aurais pu prendre Human After All, mais finalement, je crois que Random Access Memories, quelque part, c'est un album qui me surprend toujours, qui m'intrigue énormément, parce que c'est un moment où les Daft donc choisissent de revenir à l'organique, de se replonger dans le disco, le funk, la soul, etc., avec des musiciens en studio, et donc de tourner un peu le dos à la technologie. Et derrière tout ça, on pourrait dire qu'il y a une sorte, enfin, de prime abord, il y a une sorte de discours qui pourrait quasiment passé pour un peu conservateur dans une espèce de grande nostalgie comme ça, avec un premier morceau qui s'appelle même Give Life Back to Music, comme si la musique ne pouvait être qu'organique. Donc il y a un truc qui est un peu étonnant, mais je crois que c'est pas du tout conservateur. Je crois que c'est aussi en fait une grande épopée sur le vivant. Et je trouve que Contact, en fait, derrière le côté extrêmement grandiloquent que certains pourraient même trouver pompier, moi j'y vois en fait un grand morceau sur ce qu'est l'explosion de joie. Et donc en fait, qu'est-ce que c'est être vivant finalement ? Et je crois que c'est un grand album là-dessus aussi, ouais.
Alors c'est pas un album que de tubes, hein. La presse à l'époque de la sortie souligne l'audace des Daft Punk dans cet album-là. Comment elle se manifeste selon vous ?
Ah bah c'est une grande audace. Enfin moi, enfin on a beaucoup retenu Get Lucky un peu malheureusement, j'ai envie de dire. Après on saura jamais en fait si Get Lucky est agaçant en lui-même ou s'il est devenu agaçant parce qu'il nous a tellement été imposé, martelé, etc. qu'il en est devenu quasiment inécoutable. Mais Instant Crush et plein d'autres morceaux de cet album sont pour moi de véritables merveilles. C'est-à-dire que par exemple le morceau aussi dans lequel intervient Moroder, qui est un morceau qui est très étonnant parce que donc il s'ouvre sur juste une interview de Moroder avant que ne débarque la musique petit à petit, c'est pour moi un parti pris en fait musical qui est très étonnant, que j'avais jamais entendu avant en fait, et qui je trouve réinvente ce que peut être la musique aujourd'hui et amène aussi une grande réflexion, je parlais tout à l'heure du vivant, mais aussi une grande réflexion sur le temps et même l'espace. Et donc c'est un album qui pour moi brise totalement en fait le rapport un peu linéaire au temps et à l'espace pour convoquer comme ça des connexions absolument grandioses avec les années 70, les années 80, avec Nile Rodgers de Chic, avec Pharrell Williams. Et donc pour moi c'est un album qui est très habité en fait d'une grande réflexion philosophique.
Joseph Gone, est-ce que vous partagez l'enthousiasme de Carole ?
Je le partage absolument, même si comme elle, j'aurais pu choisir un autre album des Daft. Il y a plein de choses à dire sur ce disque. Moi, je les avais interviewés à l'époque de la sortie de cet album, et je me souviens qu'il parlait de ce concept de la vallée de l'étrange, qui est un truc en science-fiction, où quand vous voyez quelque chose qui vous ressemble exactement, à votre sosie, ou en gros un robot qui vous ressemble, il y a quelque chose d'un peu d'extrêmement familier, mais en même temps de totalement inconnu qui vous fait face. Et je crois que ce disque, il est tout à fait à propos de ça, à propos de quelque chose qui a été vivant, c'est-à-dire des genres musicaux que les Daft et leur génération sont censés avoir tués, en quelque sorte, ou dépassés, et que là, d'un coup, ils remettent au goût du jour, en tout cas, qu'ils se réapproprient ça à la façon des robots qu'ils étaient ou qu'ils prétendaient être, c'est-à-dire des facsimilés, mais des facsimilés à leur façon, c'est-à-dire des choses qui sont poussées à l'extrême, parce que les Daft étaient, ou sont toujours d'ailleurs, des gens extrêmement perfectionnistes, donc qui poussent ça jusqu'au bout. Et il y a, je trouve, dans ce disque-là, la réalisation de ce que je pense être leur fantasme suprême, c'est-à-dire Stanley Kubrick. Et pour moi, ce disque, Random Access Memory, c'est vraiment un film de Kubrick, mais fait par les Daft Punk, dans le sens où il prend un genre, ou en tout cas une période, et il en fait quelque chose d'extrêmement fictionnalisé, plastique, jusqu'au boutiste. C'est ce que disait Carole, c'est-à-dire c'est la soul, la funk, le rock classique, Phantom of the Paradise, qui est aussi une de leurs grandes références, Brian De Palma. Mais il y a vraiment un côté 2001 Odyssée de l'espace, un côté extrêmement kubrickien. D'ailleurs, je trouve que le disque s'écoute comme ça, tout comme on regarderait 2001 avec 12 ans plus tard. Random Access Memory, pour moi, s'écoute vraiment comme ça, c'est-à-dire comme quelque chose qui est extrêmement beau, extrêmement abouti, mais avec en même temps un côté un tout petit peu kitsch dans certaines façons de faire. Et je pense qu'il gagnera davantage encore dans 10 ans à la réécoute quand on sera encore un peu plus loin de son moment.
C'est un disque que vous écoutez toujours, Carole Boinet, ou il est dans votre panthéon ?
Il est dans mon panthéon, mais il m'arrive d'écouter Contact, par exemple, me procure une émotion qui est très vivace et qui est vraiment extrêmement sincère. Et je trouve que tout à l'heure, on parlait de nostalgie, mais en fait, c'est ça aussi que je trouve très intéressant dans ce disque, c'est que c'est aussi une grande réflexion sur le fantasme de la musique. C'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas finalement à recréer la musique soul, la musique funk ou le disco des années 70. Ils cherchent juste, en fait, aussi une grande réflexion sur qu'est-ce que ces musiques ont déposé en nous et quel fantasme nous habite par rapport à ces musiques. Et c'est toute cette réflexion aussi du rapport des Daft à la musique qui m'intéresse énormément, ouais.
Et il existe une version assez étonnante de ce disque qui est sorti il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, qui est une version qui s'appelle Drumless, une version sans batterie. Et ce qui est, une autre écoute de ce disque et qui lui donne un aspect encore plus étrange, encore plus abouti, encore moins nostalgique sans doute que ce qu'on a pu y voir.
Allez, on poursuit. À présent, avec l'un de vos choix, Joseph Gone, nous allons écouter le titre Archangel tiré de l'album Unshoe de Boreal. Nous sommes en 2007, c'est le deuxième album du producteur britannique de musique électronique. Holding you Joseph, peut-être pour commencer, est-ce que vous pourriez nous présenter cet artiste en quelques mots? Qui est-il?
Déjà, c'est très émouvant pour moi d'entendre tout ça. C'est assez étrange. Burial, c'est quelqu'un qui est apparu dans les années 2000 sur un label qui s'appelle Hyperdub, dont le producteur et patron Code9 avait déjà sorti quelques disques qui sont vraiment, c'est vraiment une musique électronique qui arrive après la jungle, la drum and bass, la techno, toutes ces musiques anglaises de club et de rave. À un moment où tout ça commence un peu à s'essouffler, il y a dans le contexte, il y a une sorte de retour du rock, on parle que des Strokes, etc. Et cette musique, elle prend une autre direction, elle devient plus sombre, plus dure, et elle commence à incorporer des choses plus abstraites. Et Burial, il y a un premier album qui apparaît, celui-ci c'est son deuxième, et il est totalement anonyme. On ne sait pas qui c'est, il ne se montre pas, il ne joue pas, on ne sait vraiment pas qui c'est. Moi j'avais été un peu à sa poursuite à l'époque, et je ne l'avais jamais trouvé, j'avais trouvé son producteur, mais lui c'était impossible de le trouver. Et quand ce deuxième album arrive, il est encore plus fort que le premier, parce que là il incorpore des voix et il incorpore une mélancolie qui est incroyable, tout en ayant cette espèce de rythme pris un peu partout dans la musique anglaise. Et il y a une mélancolie qui est folle et qui a l'air construite de rien, c'est-à-dire qu'on comprend un peu plus tard que toutes les voix qu'on entend sont des voix qu'il trouve sur des CD promo de musique de R&B, des trucs totalement délaissés. Il les pitch, il les trafique, et il invente une bande son qui pour moi était vraiment une bande son de nuit et qui est explicite à propos de ça. C'est vraiment un disque pour moi de nuit, de fin de quelque chose, et c'est un disque extrêmement individuel. C'est-à-dire on est aussi à un moment où cette musique, elle devient la musique d'une personne, à la recherche de son identité et à la recherche de moments. Il y a un morceau qui s'appelle In McDonald's, qui est une sorte de rêverie de quelqu'un qui est juste paumé dans un McDo. Et pour moi, c'est vraiment un des plus beaux disques que j'ai jamais entendu. Enfin, il y a quelque chose de d'indépassable dans ça. Ça faisait longtemps que je l'avais pas écouté. Je l'ai réécouté là. Et ça m'a vraiment transpercé. C'est vraiment un disque qui me produit un effet incroyable.
Vous parlez de voix et de mélancolie et de sombre. Est-ce que on peut parler d'anthologie au sens des fantômes de Derrida pour ce disque-là ?
Bien sûr. C'est aussi un disque qui va ouvrir vers ça, C'est un disque qui a inspiré les textes de Mark Fisher, les textes de Simon Reynolds, beaucoup de choses autour de ça. C'est aussi un disque qui ouvre la voie vers d'autres genres de musique, et notamment vers quelqu'un que je considère par ailleurs comme un autre génie, c'est-à-dire The Caretaker, Leland Kirby, qui va, à partir des idées qui sont chez Burial, qu'il développe quasiment en même temps, faire une série de disques notamment sur la démence, la façon dont la musique commence à nous hanter et la façon dont la mémoire se construit et se dissipe. Et je trouve que l'album de Burial, On True, c'est vraiment ça. D'ailleurs, cet album est tellement fort qu'ensuite il ne fera plus d'album, il ne fera que des EP, des singles, des choses très longues qui sont aussi dans une sorte d'évaporation, mais il ne fera plus jamais d'album. Et ça cristallise quelque chose, ça cristallise vraiment un moment, et pour moi c'est dans ces décennies-là, les premières années 2000, il y a pas plus beau, il y a vraiment, et je trouve qu'à l'époque même, en 2007, quand le disque sort, on n'en parle pas assez, et je trouve que ça a créé une sorte de rupture, c'est-à-dire qu'il y a les gens qui vraiment rentrent dans cette musique-là, en se disant tiens, il y a quelque chose qui existe, il y a quelque chose qui est en train de s'inventer, ou en tout cas, on est arrivé à un moment, pour une génération sans doute, et il y a ceux qui disent on ne sait même pas ce que c'est, quoi. C'est un vrai marqueur, un peu pour moi comme a pu l'être, je pense, le deuxième album du Velvet Underground, ce genre de choses, où d'un coup vous savez où vous vous situez.
Carole Bonnet, est-ce que vous avez la même sensation en écoutant ce titre-là ?
Ah oui, tout à fait. Moi, je suis absolument fan de Burial. Et c'est quelqu'un qui, en fait, a vraiment connu la musique par son grand frère. Son grand frère fréquentait les raves que lui, en fait, Burial, étonnamment, n'a pas vraiment fréquenté. Et donc, tout à l'heure, on parlait du fantasme. Il y a un peu ça aussi chez Burial. C'est-à-dire que finalement, il fait une musique qui, par rapport aux images qu'il a inventées lui-même dans sa tête, des raves que fréquentait son frère au Royaume-Uni. Et donc, en fait, c'est une grande musique aussi, un peu de fantasme, de rêve, et qui produit en fait une sorte d'architecture. On a vraiment l'impression en l'écoutant qu'on arrive en fait dans un endroit où il y a eu une rêve, mais l'endroit dans lequel on arrive est désormais désaffecté et abandonné. Il y a un truc qui est assez lugubre et effectivement extrêmement mélancolique dans sa musique. Et lui-même, dans une interview en 2007, racontait que en fait c'est quasiment les échos d'une fête. C'est-à-dire que c'est une musique, en fait, c'est comme si c'est le moment où on est parti de la soirée. Il est 5h du matin, on navigue seul dans la rue, il pleut, et en fait c'est comme si on entendait encore un bourdonnement dans l'oreille des fêtes qu'on a fréquentées, et c'est un peu ça sa musique aussi, c'est une sorte de c'est plein de sédiments comme ça, c'est incroyable.
Ne vous éloignez pas trop du micro, on va écouter votre deuxième choix tout de suite, Carole Bonnet. Come back to me and take me right. Paul, est-ce que vous pouvez nous présenter cet artiste et puis l'album qu'on est en train d'écouter et le titre ?
Alors, Earthseater, donc là c'est son cinquième album qui s'appelle...
Phoenix,
qui a en plus un très très beau titre. Donc les flammes sont de la rosée sur ma peau et qui en fait résume très bien cet album de Earthseater, qui est un grand album sur en fait on va dire la réinvention. Donc d'où le mythe du phénix qu'elle convoque ici. Et Earthseater, c'est une artiste qui s'appelle Alexandra Drushin qui a grandi en Pennsylvanie. Et je le précise parce que c'est très important dans sa musique, c'est-à-dire qu'elle a vraiment grandi en fait dans une ferme entourée de chevaux et de nature, et je pense que ça a complètement elle s'est beaucoup ennuyée, et donc elle a passé beaucoup de temps dans l'enfance, dans l'adolescence à s'imaginer comme ça un monde extrêmement chimérique, extrêmement féerique, qu'on retrouve vraiment dans sa musique, qui est une musique qui pour moi est totalement bouleversante parce qu'elle est très singulière. C'est vrai que j'avais rarement entendu quelque chose comme ça avant elle. C'est une musique qui est très organique.
Justement en 2020 à peu près, elle a sorti l'album.
Surtout sur cet album où elle revient à l'organique, à la guitare acoustique, à la harpe, au violon. Donc il y a quelque chose comme ça qui est très organique. Et puis à la fois, en fait, elle en fait quelque chose d'alien. C'est-à-dire qu'à partir de l'organique, en fait, même sa voix se transforme en une voix quasiment d'un oiseau qu'elle inventerait. Quoi. Elle part comme ça dans les aigus. C'est vraiment une voix de phénix. Et donc à partir d'un matériau organique, elle en fait quelque chose d'extraterrestre que je trouve vraiment très très singulier. Ouais.
Vous l'avez dit, là c'était son quatrième album. Sur les albums
cinquième.
Sur les albums précédents, on avait loué parfois ses excès. Là, on revient à une sorte de simplicité.
Je trouve que c'est plus simple et je trouve que l'album est mieux construit, c'est-à-dire qu'il forme vraiment une cohérence. Moi, j'aime beaucoup les quatre précédents, mais qui étaient plus électroniques et qui étaient plus vraiment dans une exploration, et donc avec aussi un petit côté où parfois ça partait un peu dans tous les sens, mais c'était très passionnant, hein. Mais il pouvait y avoir un tout petit peu un côté brouillon. Et là, en fait, elle l'a enregistré en 10 semaines en Espagne, avec un ensemble d'ailleurs là-bas, harpe, violon, etc. Et en fait, ça produit un tout, je trouve, qui est extrêmement cohérent et qui est un petit peu aussi émo. J'ai envie de dire, c'est il y a un petit côté qui pourrait être quasiment kitsch dans une espèce de profondeur d'émoi quasiment adolescent, mais qu'elle revendique.
Hein, un peu comme la pochette.
Comme la pochette, qui est une merveilleuse pochette où on la voit donc avec des ailes de dragon, et puis il y a une sorte de feu qui jaillit de ses fesses. Et il y a ce côté-là qui est très, qui est un peu kitsch chez Earthseater, mais que j'aime beaucoup.
Joseph Goon, est-ce que vous partagez l'enthousiasme
Je suis assez enthousiaste. Je connais moins cet artiste que Carole, mais je connaissais l'enthousiasme de Carole pour Earthseater. D'ailleurs, j'ai jamais su si on disait Earthseater ou Earthseater.
Ah.
Mais j'aime beaucoup cette ambiguïté chez cet artiste. Moi, je l'ai découverte via le label en fait qui la sort, qui s'appelle Pan, qui est un label de la fin des années 2010-2018, qui est le label d'un garçon qui s'appelle Bill Koulias, qui était un Grec mais installé à Berlin et qui a sorti beaucoup de disques de musique électronique un peu étrange, un peu chercheuse, avec toujours cette idée de l'hybridité, de la métamorphose aussi. Les pochettes montrent souvent des choses entre les genres, des bêtes curieuses, etc. Donc il y a un peu ça, mais je trouve que là, sur cet album-là, on arrive à un moment où tout ça a l'air un peu de s'apaiser, de se calmer. Et moi, quand j'écoute ce disque, ça m'évoque beaucoup les grandes chanteuses folk des années 60. Ça m'évoque beaucoup Judy Seal, une grande chanteuse que j'admire beaucoup, avec notamment cette voix qui semble d'un coup angélique, qui semble même parvenir d'ailleurs, comme le soulignait Carole, et ces arrangements qui portent la musique très loin. C'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement dans une structure de chansons très courte, mais on est aussi dans des choses qui peuvent s'allonger, qui peuvent prendre le temps. Et quand on écoute ce disque, moi j'ai l'impression que il y a plusieurs écoutes possibles, selon les moments, selon même si vous l'écoutez sur un téléphone, si vous l'écoutez dans vos oreilles uniquement, etc. Il y a plein de niveaux d'écoute qui rendent ce disque, je trouve, assez admirable et très très beau. C'est vraiment un disque de folk électronique. C'est vraiment, il y a un fantasme de la musique électronique comme une forme de folk, et là je trouve qu'on est à cet aboutissement là inversé.
Alors, dernier cadeau dans votre hôte, Joseph Goon.
Mon Dieu.
C'est le dernier de cette journée. On va parler de Frank Ocean, c'est l'album Blonde, et on écoute Pink and White.
Time we've no control. If the sky is pink and white, if the ground is black and yellow, it's the same way you showed me.
nod my head, don't close my eyes. Halfway on a slow move. It's the same way you show me.
Blonde, l'album de Frank Ocean paru en 2016. Peut-être un mot, Joseph, sur cet album qui a quand même une histoire un peu singulière.
Je ne sais pas si son histoire est singulière. L'histoire de Frank Ocean, elle l'est en tout cas. C'est quelqu'un qui vient. Moi, c'est ce qui m'a toujours intéressé, c'est qu'il vient d'un collectif, le collectif qui s'appelait Odd Future, dans lequel on a découvert Tyler the Creator, etc. C'était un collectif de Los Angeles, californien, donc qui balançait des disques comme ça gratuitement sur leur site, des mixtapes, etc. Frank Ocean a surgi de là. On pensait que c'était un artiste plutôt soul et il a gardé cette sorte de trajectoire un peu plus accessible, un peu plus pop, presque émo, si je peux reprendre une expression de Carole de tout à l'heure. Et quelque chose comme ça de très 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 émouvant, très touchant. C'est un disque qui, pour moi, ne peut pas être dissocié d'un autre disque qui est sorti quasiment la veille, qui est un disque qui est sorti d'abord sous forme de vidéo sur Apple TV, sur Apple Music, je ne sais plus exactement. Enfin, c'est un long travelling ou un long plan comme ça, séquence d'un autre disque qui prend beaucoup de temps, qui est plus expérimental et qui d'un coup laisse une grande place au côté beaucoup plus pop de Blonde. Blonde, c'est un disque étrange parce que c'est un disque qui n'est absolument pas disponible. C'est un disque qui est sorti très rapidement, sous forme de vinyle, quelques CD, mais c'est un disque qui a disparu, qu'on trouve sur les plateformes, évidemment. Du coup, c'est un disque ultra contemporain, presque hyper contemporain, puisqu'on ne peut le trouver que comme ça. C'est aussi un disque qui explore tellement l'état, l'identité de cet homme au milieu d'une sphère, d'une tribu de d'autres rappeurs de R&B, etc., ultra machiste, avec un truc très 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 masculin, et lui arrive à quelque chose qui est à l'inverse de ça, qui est vraiment sur ses peurs, sa façon d'être fragmenté, sa façon d'être, de ne pas être à l'aise, sur la façon de raconter une histoire d'amour. C'est vraiment, il y a quelque chose d'assez bouleversant. Mais surtout, au-delà de tout ça, il y a une vraie écriture, comme on peut l'entendre dans ce morceau-là. Les chansons, elles restent, en fait. Elles restent, elles vous restent en tête. Et elles sont aussi ponctuées par des choses qui sont assez hilarantes. Il y a notamment cette interlude, un moment où il remet un message que lui laisse sa mère, qui lui dit, tu ne prends pas de marijuana, ne prends pas de cocaïne, etc., etc. Je trouve que c'est un des plus grands disques de ces 25 dernières années. En vrai, d'ailleurs, je crois que les Inrock l'ont placé en tête de ce classement-là.
C'est à vous. Qu'est-ce qui représente pour vous Frank Ocean?
Comme le disait Joseph, c'est-à-dire que moi, ce que j'aime beaucoup dans cet album, c'est en fait que c'est un album qui convoque la fluidité en musique. Donc en fait, comment transposer le fait que Frank Ocean est queer? Et ben finalement, en fait, ça, c'est un album queer au sens où en fait, il y a une fluidité musicale. Il explose complètement. Enfin, du moins, il réinvente les chapelles un peu de la pop, du R&B, etc. Il les réinvente complètement, il les tord, et il invente du coup une nouvelle pop qui se permet beaucoup de choses, qui est beaucoup moins lisse, qui est beaucoup plus exploratoire, qui est beaucoup plus libre, finalement, aussi. Et donc, il y a un truc comme ça qui tient vraiment de la fluidité, de l'eau dans cet album. Et on le voit, par exemple, sur le fait qu'il y a un grand name-dropping dans cet album. Il y a plein de collaborateurs, collaboratrices.
Il y a des choristes stars.
Notamment aussi, ouais. Beyoncé sur Pink and White, qui fait juste des petits chœurs. Enfin, ça pourrait être Beyoncé et quelqu'un d'autre. Et en fait, c'est ça que je trouve génial. C'est-à-dire que c'est un name-dropping, mais à la fois, c'est pas du tout amené de façon grandiloquente. Genre, regardez tous mes potes que j'ai ramenés sur mon album. C'est fait, en fait, comme un grand album d'exploration collective. C'est vraiment à échelle d'être humain. Et donc, je trouve que ça dit quelque chose vraiment de qui est Frank Ocean, de son rapport à la musique, et de son rapport justement à la vulnérabilité, à l'intimité, au fait d'explorer les failles ensemble dans un grand collectif comme ça sur cet album.
Il vous reste quelques secondes, Joseph.
Ça dit aussi beaucoup sur notre rapport au monde, au contemporain. Le premier morceau s'appelle Nikes, c'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'il arrive à s'emparer de cette idée de la marque, de quelque chose qui lui est extérieur, pour se l'approprier avec une extrême douceur. C'est un disque d'une très très grande douceur, je trouve, et qui a l'image de sa pochette, comme le disait Carole.
C'est une
pochette. La pochette, c'est un portrait de lui signé Wolfgang Tillmans, ce qu'on a pu revoir dans l'expo de Tillmans présente ça au Centre Pompidou, la dernière expo, qui le montre comme ça, les cheveux verts, le regard abaissé, on ne voit pas son regard. Et c'est exactement ça cet album, c'est-à-dire c'est une grande vulnérabilité, une grande douceur aussi, et c'est quasiment un moment d'intimité. Une intimité telle d'ailleurs que lui non plus, comme Burial, n'a pas refait d'album depuis. Il a refait des singles, il y a une reprise splendide de Moon River, le classique américain, mais il n'y a pas eu d'album depuis, on l'attend l'album. D'ailleurs ça pourrait être un espoir pour les années qui viennent.
Ben voilà, un vœu pour 2026 en fait. Merci beaucoup, merci Carole Boinet et merci. Joseph Boone pour merci. Vos choix aujourd'hui, pour votre hôte qui a été rempli de cadeaux. Et comme toujours, vous retrouverez bien sûr les références de ces quatre albums sur la page des Midi de Culture sur le site de franceculture.fr.